Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Bernard de Cotigny.
En ce dimanche du baptême de Jésus, le pape a baptisé 32 nouveau-nés en la chapelle Sixtine. Le midi, lors de l'Angélus, il a dévoilé les noms des 16 prochains nouveaux cardinaux électeurs qui seront créés lors du consistoire convoqué pour le 22 février. Ils nous viennent de tous les continents dans un bel équilibre entre les pays du Nord et du Sud. Nous avons aussitôt joint deux d'entre eux, l'archevêque de Québec et l'archevêque de Ouagadougou. Dans la seconde partie de ce magazine, sœur Catherine Aubin et son invité du dimanche, Pierre Gisèle, théologien suisse et chercheur dans le champ des religions et du religieux. Le pape François a donc annoncé ce dimanche la création, lors d'un consistoire le 22 février prochain, de 16 nouveaux cardinaux électeurs, qui ont donc moins de 80 ans, dont 9 viennent des pays du Sud, auxquels s'ajoutent 3 cardinaux émérites de plus de 80 ans. Parmi les nouveaux électeurs en cas de conclave pour élire un nouveau pape, 4 seront italiens, dont le nouveau secrétaire d'État Pietro Parolin, 2 autres européens, à savoir un allemand et un britannique, 5 latino-américains. Ils viennent d'Argentine, du Chili, du Brésil, d'Haïti et du Nicaragua. Un nord-américain qui nous vient du Canada, 2 africains nous venant de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, enfin 2 asiatiques qui viennent de Corée du Sud et des Philippines. Pas de nouveaux cardinaux français ni de cardinaux belges. Les nouveaux cardinaux, a déclaré le pape, nous viennent de 12 pays différents et de tous les continents pour représenter le profond rapport ecclésial entre l'église de Rome et les autres églises disséminées de par le monde. Le pape a annoncé alors que le 23 février, il présiderait une messe solennelle avec ses nouveaux cardinaux, alors que le 20 et 21 février, il tiendrait un consistoire avec tous les cardinaux pour réfléchir sur le thème de la famille. Dès l'annonce, nous avons donc appelé l'un des heureux élus au Canada, Mgr Gérald Cyprien Lacroix, l'archevêque de Québec, qui venait d'apprendre la nouvelle peu de temps auparavant.
De très grandes surprises, je l'ai appris en même temps que tout le monde lors de l'Angélus, et profond sentiment de la confiance du Saint-Père me touche beaucoup, beaucoup. Si le pape pense que je peux rendre service de cette façon-là et continuer ma mission de service, d'évangélisation, moi je suis prêt à travailler avec lui, avec ses successeurs. Moi, je suis très heureux de collaborer avec le pape à ce moment-ci de notre histoire, alors que nous sommes dans un grand moment de renouveau, et le pape François insiste beaucoup sur notre propre conversion, sur la transparence, sur notre proximité avec les gens, avec les plus pauvres. Et tout cela me touche beaucoup. Je suis très, très heureux, mais en même temps très ému. Écoutez, là, ça arrive comme une grande surprise.
Qu'est-ce que ça représente, selon vous, aussi bien pour votre archevêché de Québec, pour l'ensemble de la province du Québec et l'ensemble du Canada également?
Je pense que c'est une grande fierté pour l'Église de Québec. C'est une reconnaissance aussi de son histoire, c'est le siège primatial, c'est le berceau de la foi catholique au Canada, hein, et pour une bonne partie du Canada et des États-Unis. Alors, c'est évidemment une belle reconnaissance de notre histoire. Mais cette année, de façon spéciale, c'est le 350e anniversaire de fondation de la première paroisse au Canada, Notre-Dame de Québec, qui est la cathédrale aujourd'hui, par le bienheureux François de Laval. Donc, ça ajoute au jubilé, je pense, et ça, c'est une reconnaissance de l'Église vivante ici après 350 ans. Hein.
Vous allez également participer à un consistoire dont le thème principal sera la famille. Le prochain synode qui sera organisé à l'automne prochain concernera la famille à cette occasion. Est-ce que l'expérience que vous avez dans votre archidiocèse peut servir, et en quoi pourrait-elle servir?
De la famille aujourd'hui est une réalité qui nous touche, qui à la fois nous préoccupe. Nous avons beaucoup de travail à faire pour que la transmission de la foi se vive. D'abord, chez les parents, les enfants, les petits-enfants, les grands-parents, de continuer ce travail qui est notre mission de l'Église, d'amener les gens à une relation personnelle et communautaire avec le Seigneur.
Et nous avons aussi joint par téléphone l'archevêque de Ouagadougou, au Burkina Faso, Mgr Philippe Ouedraogo, tombé lui aussi littéralement des nues.
Je suis surpris de la nouvelle. C'est en dehors de mes aspirations à moi, petit évêque de la savane. Je suis surpris que le pape jette un regard si bienveillant
sur un petit évêque de la savane, comme pour coopérer, pour l'aider et coopérer étroitement à sa mission. Je suis surpris, moi j'étais à mes tâches ordinaires, un pasteur de la base, j'étais avec mes catéchistes, vous voyez. Je ne sais pas ce que, qu'en pensent les pasteurs ou les fidèles. J'imagine que ils sont aussi surpris que moi. Et ce n'est rien d'autre qu'un service dans l'église. Alors, est-ce que qui peut se croire dit de ce service-là? Mais si le pape a jeté un regard si bienveillant par rapport à un pasteur de la base, bon, je pense que les chrétiens ils vont l'accueillir comme une bonne nouvelle. Quelqu'un m'a dit que c'est une bonne nouvelle. Je ne peux pas aller plus loin pour le moment. Hein.
Le cœur chante aujourd'hui, mais le plus beau cœur est celui des enfants. Certains pleureront s'ils ont faim ou autre chose. S'ils ont faim, chère maman, nourrissez-les tranquillement. Voilà ce que le pape François a déclaré ce dimanche dans la matinée durant l'homélie de la messe de baptême de 32 enfants dans la chapelle Sixtine, pour tout simplement encourager les parents à vivre cette cérémonie avec simplicité et spontanéité. Il est souvent arrivé en effet que durant les baptêmes dans la chapelle Sixtine, des mères aient donné le sein et des pères le biberon aux petites créatures qui se faisaient entendre par des cris ou des pleurs. 32 enfants donc, un chiffre particulièrement élevé par rapport à son prédécesseur Benoît XVI. De son côté, Jean-Paul II avait lui aussi pour habitude de baptiser un très grand nombre d'enfants. Des précisions avec Xavier Sartre.
En ce dimanche de la fête du baptême de Jésus, le pape François a souligné que la foi était l'héritage le plus important que les parents pouvaient laisser à un enfant. Il les a encouragés, une fois rentrés chez eux, à bien réfléchir à la manière de transmettre la foi. Jésus, a expliqué le pape dans sa brève homilie improvisée, n'avait pas besoin d'être baptisé, mais avec son corps et sa divinité, avec son corps, il a béni toutes les eaux pour qu'elles aient ce pouvoir de donner le baptême. Et puis avant de monter au ciel, il a demandé d'aller de par le monde baptiser. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, c'est une chaîne ininterrompue de personnes qui baptisent des enfants. Les enfants, des enfants. Les enfants présents ce jour sont un anneau de cette chaîne. Vous, les parents, avez ces enfants à baptiser. Et eux, plus tard, auront un petit garçon, une petite fille à baptiser, puis des petits-enfants. Voilà cette chaîne du baptême. Vous transmettez la foi. Vous avez le devoir de transmettre la foi à ces enfants. C'est le plus bel héritage que vous leur laisserez. La foi, seulement cela. Aujourd'hui, a conclu le pape, et réfléchissez en rentrant chez vous à cette mission. Comment transmettre la foi à vos enfants? Parmi les 32 nouveau-nés baptisés par le pape François, pratiquement autant de garçons que de filles, deux petites s'appellent Francesca et deux autres l'ont parmi leurs prénoms de baptême. Comme c'est l'usage, la plupart d'entre eux sont des enfants d'employés du Vatican, notamment trois enfants de journalistes de Radio Vatican. Cette année, l'un des nouveau-nés présents était la fille d'un couple d'Italiens mariés à la mairie, qui avait demandé au pape de baptiser leur deuxième enfant lors d'une audience générale à laquelle il participait quelques mois auparavant. De même, l'enfant d'une jeune femme qui avait écrit au pape pour lui raconter son histoire, celle de sa grossesse et de l'abandon de son compagnon, a également été baptisée. La mère avait ainsi confié dans une lettre qu'elle avait même pensé à l'avortement avant de décider de donner naissance à son enfant. Le pape l'avait alors appelé.
Depuis le début de son pontificat, le pape François a souligné à plusieurs reprises l'importance du baptême et invité les fidèles à faire mémoire de la date de ce jour. Lorsqu'il était encore archevêque de Buenos Aires, le cardinal Jorge Mario Bergoglio avait demandé aussi plusieurs fois que les prêtres acceptent de baptiser les enfants de mères célibataires et plus généralement conçus hors mariage, reprochant à certains prêtres même leur hypocrisie sur cette question. Et c'est aussi au baptême que le pape a consacré la catéchèse de la prière de l'Angélus, dimanche midi, pour ensuite parler du grand temps de la miséricorde que représente l'arrivée de Jésus au milieu de nous pour partager notre condition humaine, notre pauvreté. Partager, a déclaré le pape, est la vraie façon d'aimer, et c'est ce que nous a révélé Jésus. Le pape a alors questionné son auditoire. « Ne vous semble-t-il pas que tous nous avons besoin d'un supplément de charité, de cette charité qui partage, qui prend en charge les difficultés et la souffrance de nos frères ? Alors oui, la vie a vraiment de la saveur lorsqu'on se laisse inonder par l'amour de Dieu. » Et retrouvons sans plus tarder sœur Catherine Aubin et son invité du dimanche. Il s'agit de Pierre Gisèle, théologien suisse et chercheur dans le champ des religions et du religieux. Professeur titulaire à l'Université de Lausanne depuis 1976, il y a effectué l'essentiel de sa carrière. D'abord, pleinement situé dans la théologie chrétienne, ses recherches l'ont progressivement élargi. Elles ont passé par une étude comparée du judaïsme, du christianisme et de l'islam, ainsi que par une attention accordée aux recompositions contemporaines du religieux. Elles ont traversé les interrogations d'une théorie de la religion et d'une anthropologie du croire pour porter en fin de compte sur le statut de la fonction du religieux en lien avec le social, dont le religieux et ses transformations sont un symptôme. Interrogé par Catherine Aubin, Pierre Gisèle revient sur son parcours, ses recherches et surtout ses espérances pour aujourd'hui.
Pierre Gisèle, vous êtes professeur honoraire en histoire des théologies, des institutions et des imaginaires chrétiens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, imaginaire chrétien ?
Alors, imaginaire chrétien, bon, d'abord, le mot imaginaire, comme le mot institution, c'était pour prendre une réalité sociale et culturelle large. Voilà, toute l'humanité sociale et individuelle vit de choses réelles, concrètes, etc., mais aussi d'imaginaire, de construction d'images du monde et autres, le christianisme parmi d'autres. Voilà, donc il faut prendre le christianisme, bien sûr, mais c'était greffé sur une réalité anthropologique et sociale plus large, les constructions des imaginaires.
Alors, quand vous parlez construction, effectivement, ce mot sonne bizarre. Quand on pense à construction, on pense à édifice, mais on ne pense pas à la construction d'une pensée, et encore moins à la construction de christianisme. Pouvez-vous nous expliquer ?
Le christianisme n'est pas référé à un commencement originaire, vraiment fondateur, simple, et qui ne serait pas une construction, justement. Le christianisme, c'est une construction. C'est une construction des premiers siècles où, pour commencer, on a construit un certain nombre de choses en lien avec Jésus de Nazareth, quand on l'a reconnu, confessé comme Christ. Mais Christ, d'abord, ça veut dire Messie. Donc, on a utilisé une matrice symbolique à disposition, en l'occurrence juive, pour dire Jésus, c'est le Christ. Donc, on a réinterprété l'événement Jésus en fonction de cette matrice symbolique. Et on a aussi, en même temps, réinterpréter cette matrice symbolique, puisque, en principe, le Messie ne devait pas mourir sur une croix. C'est profondément catholique, si j'ose dire. C'est les protestants qui ont eu un petit fantasme d'une origine pure. Mais le catholicisme sait qu'il y a une construction, qu'on ne dit que Jésus est le Christ que dans l'esprit, que c'est une construction de l'Église, a-t-on dit souvent. Donc, moi, je les prends en bonne peur. Et puis, par ailleurs, ben forcément, ça me donne aussi un arrière-plan pour discuter de façon plus large avec d'autres, parce que toutes les réalités idéologiques, culturelles et autres, qui sont importantes dans nos sociétés, ce sont toutes des constructions, avec chaque fois des enjeux, puisque les constructions sont différentes, et puis qu'il y a à débattre et que ça vaut la peine.
Où est la révélation ? Comment vous articulez la révélation dans cette construction du christianisme ?
Si on prend l'ensemble de l'histoire de l'Église, le thème de la révélation, il n'est pas aussi important qu'il n'a été depuis deux siècles. Là aussi, reprenons les évangiles. On a quatre évangiles dans le canon chrétien, dans la Bible chrétienne. On a quatre évangiles qui sont chaque fois dits selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, etc. Ce sont des constructions, c'est-à-dire des mises en perspective de l'événement Jésus, pas seulement de ce qu'il a dit, de ce qui lui est arrivé, de ce qu'il a subi, etc. Et les mises en perspective, elles sont personnelles, elles sont singulières, elles sont différentes à chaque fois. Celle de Matthieu n'est pas la même que celle de Jean, celle de Marc, etc. Donc déjà là, on voit qu'il y a de la construction, pour reprendre le thème de tout à l'heure, et puis ça passe par des personnes. En l'occurrence, Matthieu, bien sûr, aussi un peu sa communauté, etc. C'est pas lui tout seul. Mais dans les constructions, chacun s'engage singulièrement. Et puis, il y a des enjeux humains tout à fait fondamentaux. Ce n'est pas seulement, pas du tout même des choses intellectuelles. C'est des choses qui nous touchent aux tripes hein, pour chacun d'entre nous. Mais ce dont il est question dans les constructions, c'est une manière de dire l'humain, de le voir, de le mettre en perspective aussi, l'humain individuel et social.
Et social. Et on sait aussi, Pierre Gisèle, que justement, vous essayez, depuis beaucoup de dizaines d'années, d'insérer la religion dans le social et dans le politique.
Alors effectivement, on peut même dire que c'est un des points forts. Chez moi, que ce soit un choix délibéré ou bien des circonstances aussi, j'ai peur d'un christianisme qui se sectarise par rapport à la société globale. On a des phénomènes de sectarisation dure, hein, que ce soit les fondamentalismes, l'évangélisme américain chez les protestants, et puis chez les catholiques, vous avez aussi des positions dures de sectarisation, type de ceux qui n'ont pas accepté Vatican II, par exemple, mais il y a aussi des sectarisations soft, si j'ose dire, des manières quand même de ne plus savoir articuler le christianisme justement sur des questions humaines, sociales, générales, qui sont des questions de tous. Il faut que dans le christianisme, on puisse faire raisonner que ce qu'on propose, les manières de prendre en charge l'humain singulières, sont justement des manières de prendre en charge l'humain et pas des choses qui vaudraient pour elles-mêmes et qui tomberaient du ciel purement et simplement. Il faut qu'on sache faire résonner derrière les symboles qui sont les nôtres, les narrations qui sont les nôtres, les réalités institutionnelles, les dogmes, les théologies, tout qu'on sache faire résonner là-derrière, les questions humaines dont tout cela répond, que tout cela prend en charge, à quoi tout cela donne une forme spécifique, mais donne forme spécifique à quelque chose de général. Par exemple, le baptême a quelque chose de spécifique, bien sûr, chrétien, et puis on valorise fortement que c'est l'entrée dans l'Église, etc. Mais c'est aussi greffé sur quelque chose qu'on appelle anthropologiquement un rite de passage, en lien justement avec la survenue d'une vie nouvelle, et il faut pouvoir faire résonner ces éléments, générant encore une fois derrière le baptême chrétien avec sa spécificité propre.
Vous enseignez depuis plus de 30 ans. Et j'imagine que vos étudiants vous ont fait bouger aussi dans votre façon d'appréhender les religions, d'appréhender tout ce que vous venez de nous dire.
Alors les étudiants font toujours bouger les profs, en tout cas j'espère pour moi. En l'occurrence, sur 30 ans et même en 36 ans, donc c'est encore un peu plus, le recrutement des étudiants, c'est-à-dire que j'ai eu de plus en plus d'étudiants qui étaient des étudiants qui s'intéressaient plus aux sciences religieuses que strictement au christianisme, des étudiants qui pouvaient être non-croyants, athées, même athées, fortement marqués pour ne pas dire militants. Donc ce changement a forcément un peu changé les choses chez moi. Ce n'est pas qu'une question de public et de pédagogie, ça oblige à prendre les questions autrement. J'avais donné il y a une dizaine d'années un cours sur Dieu et je l'avais aussi fait 20 ans auparavant. Donner un cours sur Dieu, j'étais obligé de démarrer sur les monothéismes, de parler du judaïsme, de l'islam, etc., et pas seulement de l'approfondissement interne au christianisme. Vu le public qui était là, spontanément, je devais inscrire ça sur une question plus large. Donc c'était les monothéismes. Du coup, c'est aussi en quoi les monothéismes relèvent d'une posture qui est spécifique et qui n'est pas la même que dans les polythéismes. Et puis, par ailleurs, de toute façon, la question de Dieu n'est pas une question récapitulative de tout le religieux. Donc, il y a aussi une manière de décaler la question même de Dieu. Donc, il y avait tout ça à l'arrière-plan de ce cours, pour prendre cet exemple. Et il n'y aurait pas eu tout ça il y a 36 ans. Hein.
Pierre Gisèle, comment vous verriez cette année qui arrive et puis, pourquoi pas, les perspectives?
Moi, il me semble qu'il y a des choses à prendre en charge de façon importante. Pour moi, elle touche quand même la question de la sectarisation du christianisme. Je crois qu'il faut renouveler quand même assez profondément les manières non seulement de dire, mais de penser les réalités chrétiennes. Et puis, parfois, je suis un peu désarçonné par mes collègues théologiens ou bien des institutions ecclésiales qui sont quand même tentées un peu par du repli. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait déplacer les questions catholiques et protestantes et pas les articuler de façon frontale. Nous avons tous affaire à des questions nouvelles et c'est intéressant qu'on le fasse ensemble et qu'on puisse faire fructifier nos faiblesses et nos forces respectives. Et puis concrètement, je dois beaucoup aux catholiques. J'ai été régulièrement au colloque des recherches de sciences religieuses, et c'est là que j'ai mes amis et mes complicités théologiques les plus importantes d'ailleurs.
Merci Pierre Gisèle.
Ainsi prend fin ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Venez nous voir sur notre site internet www.radiovaticana.va et sur Facebook à Radio Vatican en français. On se retrouve demain, où que vous soyez.